Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Terminer l'année ce matin et la semaine prochaine, nous consacrons deux émissions à des formes courtes du cinéma, à des jeunes auteurs de films. Et ce matin, nous voulions mettre en avant deux cinéastes actuellement programmés au Champs-Élysées Film Festival, dont c'est la 12e édition cette année. C'est le festival des cinémas indépendants français et américains. Il dure jusqu'à demain mardi. Il se refermera avec la projection du film Le Syndrome des Amours Passés de Raphaël Balboni et Anne Siro. Donc demain à 19h au Publicis Cinéma, où sera également dévoilé le palmarès. Cette année, plusieurs invités étaient honorés, Aira Sachs, Lisa Hitman, dont le film était programmé. Et puis, comme la vocation du festival est de mettre en avant les jeunes talents, plusieurs compétitions de courts, longs-métrages et moyens-métrages, nouveauté cette année en moyens-métrages, 6 films étaient montrés cette année dans cette catégorie moyens-métrages, parmi lesquels le dernier film de Sébastien Bédé, Mimi de Douarnenez, La lutte est une fin d'Arthur Thomas Pavlovski, qui a remporté le Grand Prix à Clermont-Ferrand, et le film de notre invité, Maxence Tamatiadis, rue Philippe Ferrière, qui sera remontré ce matin, ce mardi, 27 juin, donc à 18h30, au cinéma Lincoln. Bonjour Maxence.
Bonjour.
Enfin, dans la compétition des courts-métrages choisis cette année par la programmatrice Justine Lévesque, on retrouve plusieurs films passionnants, dont les films de Mathieu Salmon, Invisible, aussi Pacific Club de Valentin Nujaim, deux recommandations, et puis celui de notre invité ce matin, Boléro, le film de Nance Laborde-Jourda. Bonjour Nance.
Bonjour.
J'ai des problèmes avec la temporalité. Boléro, c'est un film qui a été montré pour la première fois au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique cette année, qui est déjà un succès puisqu'il a récolté 3 prix à Cannes, 2 à la Semaine de la Critique, prix Découverte Lights et prix Canal+, et puis la Queer Palm aussi, court-métrage. Et il a déjà été montré donc dans le cadre du Champs-Élysées Film Festival, donc ne le cherchez plus malheureusement dans la programmation du festival, mais il sera montré dans un autre festival qui commence ce mercredi à Paris. C'est le Festival du Film de Fès, 8e édition, qui a lieu au Majestic Bastille, au Grand Action, à l'Archipel, au Reflet Médicis, et c'est d'ailleurs là, au Reflet Médicis, qu'on pourra voir Boléro ce dimanche 2 juillet à 14h. Et le festival d'ailleurs proposera une riche programmation avec, comme chaque année, beaucoup de découvertes, d'avant-premières, de reprises, comme le film de Paul Vecchiali, Change pas de main. Ce sera le 1er juillet au Grand Action à 14h. Le même jour, on pourra voir Un prince de Pierre Creton en avant-première. C'était un film qui était à la quinzaine des cinéastes cette année, donc ce sera à 18h, toujours au Grand Action. Et l'ouverture de ce festival se fera au Majestic Bastille, mercredi soir à 20h, avec une projection en odorama de Eyes Wide Shut, en présence d'Axel Cadieux, qui a notamment signé ce livre passionnant chez Capricci, Enquête sur Eyes Wide Shut, le dernier rêve de Stanley Kubrick. Voilà. Je ne cite pas toute la programmation, mais retrouvez le programme sur les réseaux sociaux du Festival du Film de Fès. Voilà. Alors, Maxence et Nance, donc vous avez déjà vos parcours respectifs, vous êtes très différents tous les deux, vous avez fait des films très différents, mais c'est aussi pour ça que je voulais vous inviter tous les deux ce matin, pour montrer un peu cette diversité du jeune cinéma français aussi. Maxence, je crois que vous avez été formé à l'ENSAD, qui est les Arts Déco à Paris. C'est ça, en fait, votre formation.
Tout à fait, il y a longtemps.
Section photo-vidéo, bah ouais, ça fait longtemps, parce que vous êtes sorti diplômé il y a, je crois, 11 ans.
Eh oui, on s'en rend pas compte, mais ça passe vite.
Avant de signer un certain nombre de courts, moyens, longs métrages d'ailleurs aussi, un premier long. Alors ça a commencé à peu près dans les années 2016-2017, on va dire, avec des films comme Kimco et Période Killer. Voilà, ça s'est poursuivi avec Purina numéro 1, Frissons d'amour, qui sont presque deux petits affluents, je dirais, qui mènent au fleuve, qui est ce premier long métrage baptisé au jour d'aujourd'hui, qui a été montré dans de nombreux festivals, notamment au Festival de Rotterdam. Et puis aussi en France, à Paris, à la Cinémathèque française, au Forum des images. Voilà. Et donc ce nouveau film s'intitule Rue Philippe Ferrière et il est extrêmement cohérent par rapport aux autres, tant on y retrouve votre intérêt aussi pour, je dirais, le fait divers. On y reviendra. Et puis l'hybridation des images, ça c'est un truc très important dans votre cinéma, on pourrait dire.
Oui, tout à fait. Bah, la différence, c'est que les autres films étaient plutôt organisés comme des fictions et celui-là, c'est véritablement un documentaire. Même si formellement, il garde quelque chose des expérimentations que j'avais pu faire avant, la démarche, elle est quand même pas la même. Je m'en suis bien rendu compte en le faisant et en le montrant surtout récemment. Et on est vraiment dans... Donc oui, il y a quelque chose qui est cohérent avec le reste. En même temps, là, il y a vraiment une démarche différente de documentaire, quoi. Pur documentaire.
Ouais, complètement. Bah, on va y revenir dans quelques instants. Je présente aussi Nance Laborde-Jourda, qui donc, est comédien aussi à la base. Vous avez débuté au cinéma dans plusieurs films, notamment le film de Sophie Villiers, un chat, c'est ça.
Ouais.
Et puis il y a eu aussi d'autres films, films de Julie Pascurval, Mère et fille, notamment. Hein. Et puis vous avez toute une activité théâtrale avec une compagnie, c'est ça, avec, que vous avez créée avec Margot Alexandre.
Ouais, moi j'avais commencé par le cinéma en fait, j'ai fait un bac cinéma, bon c'était il y a très très longtemps, mais une fac cinéma, avant d'arriver justement à Paris pour faire une école de théâtre. Et après je suis repassé donc par le, on va dire voilà, par le théâtre, et j'ai une compagnie de théâtre, pour revenir maintenant au cinéma. Donc c'était, voilà, j'étais là il y a longtemps, j'en reviens.
Mais le théâtre, ça se poursuit, ah
ouais,
ça.
Ouais, ça se poursuit.
Parce
toujours.
Que là, en ce moment, vous répétez une pièce.
Ouais, en fait, j'ai une compagnie qui s'appelle Toro Toro avec Margot Alexandre. Et en fait, depuis 3 ans, on a créé 2 pièces qui tournent toujours, qui s'appelle Polyester, avec des adolescents et des jeunes danseurs amateurs. Et une autre pièce qui s'appelle Duet, qu'on est que tous les deux, et qu'on a créé il y a quelques mois, et on a fini de la jouer là pour cette saison, on reprend la saison prochaine.
D'accord. D'accord.
Donc c'est toujours.
Ce sera où
Là, on va reprendre à Toulouse, peut-être Garonne. Il y aura aussi sans doute peut-être en mai à Dijon. Genre, il y a une tournée qui se prépare. Okay. Et des festivals aussi.
Ok, ok, super. Et puis donc, depuis à peu près 2018, je crois, il y a la réalisation de plusieurs courts-métrages. Le premier, ça a été Looking for Raiko, entre la France et le Japon. Court-métrage qui était d'ailleurs produit par Margot Laurier, qui est la productrice de Boléro.
Oui.
Et puis il y a eu en 2021 je crois ce film qui s'appelle Léo la nuit et qui a beaucoup circulé dans les festivals, qui a été un peu le film qui vous a révélé aussi, en tout cas quand on a commencé à beaucoup parler de vous avec ce film Léo la nuit, voilà, avant Boléro évidemment, ouais. Avec la semaine de la critique, voilà. Mais j'avais envie déjà de vous poser la question à tous les deux, de un peu de votre désir de cinéma, comment était-il né ? Parce que vous venez de territoires différents, on va reparler d'ailleurs des territoires, parce que c'est quelque chose qui, même si vos films sont différents, vous réunit aussi, cet aspect-là.
Moi, c'est mon envie de cinéma, elle est arrivée... en fait, on n'avait pas de télé chez moi, et donc il y avait vraiment la culture du livre, quoi. J'ai lu beaucoup, et je pense que ça a vraiment développé mon imaginaire. Et un peu plus tard, au collège, je pense... je pense que j'ai commencé à voir des films et aller au cinéma. Genre, j'ai des souvenirs comme ça de cinéma et vraiment mon envie de. Et en fait, en seconde, on m'a montré, j'ai vu la VHS de Les Glaneurs, la Glaneuse de Varda. Et je sais pas pourquoi, ça m'a un peu chamboulé parce que je savais pas qu'on pouvait faire des films comme ça. Et voilà. Donc, ça a été, je pense, là, le début de vraiment de me dire que je pouvais. Est-ce que j'avais envie de faire du théâtre plus? Genre depuis très jeune, et je pense que c'est vraiment Les Glaneurs, la Glaneuse qui, je sais pas, a créé un truc assez bizarre de voir de rencontrer un objet, et il y a eu comme un avant et un après, quoi. Tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, ça se fait, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font ça comme ça, et c'est d'avoir accès aussi à son... J'ai l'impression d'avoir accès à son âme, par ce qu'elle faisait, voilà, ça... Et à partir de là, ouais, j'ai commencé à petit à petit vouloir partir un peu de chez moi pour aller faire un bac cinéma un peu plus loin. Et voilà. Et après, j'ai commencé à rencontrer Chris Marker. J'ai vu des films de Chris Marker ou même de Godard qui m'ont vachement. Ça m'a beaucoup marqué, quoi. J'y repense souvent.
Et donc, c'est marrant parce que c'est surtout, au départ, plutôt des films documentaires.
Ouais. Ouais, très bizarre. Mais en même temps, j'y trouvais vachement beaucoup de fiction aussi. Et ça qui m'a. Mais c'est un peu comme Looking for Raiko, mon premier film. En fait, j'aime bien cette hybridation un peu entre qu'est-ce qui est documentaire, qu'est-ce qui est fiction et comment tout s'imbrique finalement. Je vois beaucoup de fiction dans Les Glaneurs, la Glaneuse, alors que c'est du documentaire, mais il y a comment comment tout d'un coup on arrive à cadrer le réel et tout d'un coup tout se mélange et on sait plus ce qu'on voit et qu'est-ce qui il y a quelque chose qui me plaît énormément, ouais, en tout cas dans le côté aussi fabriqué, il y a quelque chose qui dans le côté comment dire, j'aime beaucoup ce truc-là que je retrouve aussi dans le théâtre, de faire les choses, d'avoir un petit laboratoire comme de manipulation, quoi, que c'est quelque chose de physique, de concret qu'on... Je sais que j'ai jamais connu la pellicule et je connaîtrai peut-être pas, mais en tout cas, ce truc-là de vraiment pouvoir, que c'est physique le cinéma.
Organique, presque.
Organique, voilà.
Ouais, ouais,
tout à fait.
Ça, c'est quelque chose qui parle, j'imagine, à Maxence. Enfin, cette porosité entre fiction et documentaire, c'est un truc.
Oui, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de films qui. Alors, des fois, on dit des docu-fictions. Moi, je sais pas, j'aime pas trop le terme parce que docu-fiction, je trouve que ça fait. Comme si c'était des faux documentaires mis en scène. Mais c'est vrai que je mélange assez facilement les deux. C'est plutôt Moi, je travaille beaucoup avec... je fais des films qui sont organisés comme des fictions, mais dedans, c'est quand même vachement le réel qui se déploie. C'est comme une manière d'organiser le réel sous forme de fiction, mais généralement, c'est par exemple avec des gens qui jouent leur propre rôle et qui en arrivent à devenir les héros, soit de fiction, soit de films de science-fiction, puisque souvent, ça part vers la science-fiction, notamment beaucoup ma famille. Et d'ailleurs, je pense que l'envie de cinéma, du coup, elle vient beaucoup de ma famille... aussi parce que c'est les premières personnes que j'ai filmées, c'était mes grands-parents. Alors moi, j'étais un peu cinéphile, mais pas non plus pas hardcore cinéphile, quoi. J'aimais bien aller au cinéma, mais j'ai pas une culture cinéma très très cadrée. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire des films pour filmer mes grands-parents et pour filmer le lieu où ils habitaient, parce qu'ils habitent au bord d'une route nationale qui part à l'est de Paris. Et c'est vrai que c'est en fait, ça fait 12 ans que je filme sur la route nationale. Donc il y a un moment, je vais peut-être finir par m'éloigner un peu. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un, une fois, qui m'a dit, un producteur, qui m'a dit, mais le jour où tu feras un dossier où il n'y a pas écrit route nationale dedans, il fera chaud. Et c'est vrai que j'avais un truc où pour moi, c'était filmé. Mes grands-parents, ils habitent dans un immeuble sur la nationale. Il y a une espèce d'architecture, de tout ça qui me rappelle aussi beaucoup mon enfance. Et en fait, cet endroit où il y a les voitures qui passent tout le temps et puis il y a des trucs qui sont charriés sur le bord de la route, c'était un endroit qui me fascinait. Donc j'aimais beaucoup le filmer. Et puis après, très vite, en fait, quand j'ai commencé à faire mon premier film, Période Killer, qui était un film sur mon grand-père, qui se basait sur des textes qu'il écrivait, il est mort très vite en fait en cours de tournage. Et je pense qu'après, l'idée de faire des films depuis, malgré moi, ça a toujours été combler le deuil. C'est une manière de faire le deuil, quoi, faire des films. Je pense que ce qui me touche le plus au cinéma et ce que j'essaye de faire le plus au cinéma, mais pas forcément consciemment, mais je me rends compte qu'en fait ça revient, c'est toujours quelque chose sur le deuil, sur le fait de pouvoir faire revenir par le cinéma les gens qui ont disparu, les gens qui sont plus là. Et Philippe Ferrière, le film là qui est aux Champs-Élysées, il échappe pas à ce même prisme là, quoi. Pour moi, le cinéma, c'est vraiment l'endroit où on fait le deuil, où on fait revenir les gens qui sont plus là, où les gens qui ont disparu peuvent continuer d'exister.
Cette idée de garder la trace, la mémoire aussi, c'était ça aussi même le but avant, quand vous avez commencé à filmer vos grands-parents, que vous vouliez filmer vos grands-parents.
C'était aussi au début, c'était garder une trace, et puis après, c'est autre chose, ça se transforme. C'est plus seulement garder la trace des gens tant qu'ils sont vivants, c'est les faire revenir une fois qu'ils sont plus là, quoi.
Ce qu'on voyait dans le premier long-métrage, dans Au jour d'aujourd'hui.
Ce qu'il y a dans Au jour d'aujourd'hui, puisque là, Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un moment où j'ai repris tous ces courts-métrages que j'avais fait avec mes grands-parents, tous ces bouts d'images que j'avais filmés, et puis sur la table de montage, j'ai réécrit une nouvelle histoire, justement, de science-fiction, où dans le futur, ma grand-mère ressuscite mon grand-père avec une application mobile, et il revient d'entre les morts, et puis il a un petit logo qui lui tourne au-dessus de la tête. Mais de fait, en fait, je pense que c'est... Il y a un moment dans le film où véritablement il réapparaît devant elle, et je pense qu'en fait, c'est ce moment-là que je cherche tout le temps au cinéma, de film en film, quoi. Cette espèce de petit miracle qui marche pas bien, parce qu'en fait c'est toujours des trucs qui marchent pas, on peut pas faire revenir les gens vraiment, mais un petit instant, on peut y arriver, quoi.
Évidemment, ça, ce que dit Maxence, ça a des résonances pour nous dans l'intégration, en tout cas de membres de votre famille. C'est aussi le cas dans Boléro, c'est le cas.
Ouais, tout à fait, ouais. En fait, oui, il y a plein de choses. Genre, quand je t'écoutais parler, je me disais oui, il y a plein de choses. Ce qui était assez fondateur pour moi, c'est par exemple aussi la route nationale. J'ai fait un spectacle là-dessus sur mon enfance qui s'appelait RN 134. parce que c'était justement par cette route que je suis parti des Pyrénées, et qui est aussi cette route qui allait vers l'Espagne, qui était un peu un endroit comme ça qui était important pour moi quand j'étais. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus fou l'Espagne que la France, parce que je viens de ce coin-là. Donc je suis parti de là-bas quand j'avais 14 ans pour justement faire des études de cinéma, parce que je sais pas, voilà, j'avais envie de partir de ce coin-là, et j'étais très heureux d'y revenir et aussi donc de filmer. Et ma famille, ouais, c'est très important. C'était pas tout à fait prévu comme ça. J'ai écrit Boléro en pensant à ma famille et en repensant en tout cas à ces lieux de mon adolescence. Je pensais pas le faire avec eux, et petit à petit, en fait, pour plein de raisons, c'est revenu, et petit à petit, c'est finalement ma mère qui joue la mère du personnage principal dans le film, ma sœur qui joue sa sœur. Le film est peuplé de ma famille, mes amis d'enfance, et y a quelque chose que j'aime bien, que j'aime beaucoup là-dedans, mais aussi parce que je trouve qu'il y a une grande force, parce que j'aime beaucoup aussi travailler avec des acteurs non professionnels, et de mélanger des acteurs professionnels avec des non professionnels. Je trouve qu'il y a ça crée quelque chose voilà, qui me parle énormément et que je trouve d'une grande force. Parce que ça re-questionne en permanence ce que c'est le cinéma et ce qu'on fait. Et voilà, je sais plus vraiment quelle était la question, mais...
Non, mais c'était un peu pour tisser un peu des points communs entre vous.
Voilà aussi, sur le fantôme, en fait, je trouve ça très beau. Pour moi, le fantôme... J'ai l'impression que moi, c'est un peu le négatif de toi, dans le sens où, pour l'instant, les fantômes, j'y pense tout le temps. Et ils peuplent, en fait, de manière invisible mes films. Pas encore de manière visible. Il n'y a pas eu encore de travail sur le fantôme qui est apparu dans le film, mais... C'est vrai que, par exemple, dans Boléro, il y a beaucoup d'errance et il y a beaucoup de vide aussi. Je travaille beaucoup sur le vide. J'essaie, en tout cas, dans ces fictions, de placer du vide, des creux, et j'ai l'impression de les remplir moins par ces fantômes-là. Et après, c'est aux spectateurs de convoquer, s'ils veulent, leurs propres fantômes dans mes films, quoi. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas encore, les fantômes ne sont pas encore apparus. Un petit peu, d'une manière cachée.
En même temps, Boléro, c'est vrai que c'est le film du retour, donc quelque part, il y a cette dimension aussi fantomatique par rapport à son enfance et ce qu'on a vécu dans les lieux qui
j'avais envie tout ce début du film de filmer ce personnage comme s'il regardait lui-même un propre film, comme si on le filmait en train de regarder un film de son adolescence, quoi, de le voir dans ses paysages qui en plus sont les paysages de ma propre enfance. Mais c'est comme si c'était une mise en abîme comme ça de juste regarder ce corps qui regarde et qui réfléchit en même temps et qui peut-être permet au spectateur de réfléchir aussi à sa propre, à faire une propre introspection.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors pourquoi avoir voulu en fait quelque part aussi faire une sorte de transfert sur François Chéniaud qui interprète donc ce personnage principal qui revient sur les lieux où il a grandi, où il a l'importance du lieu est très prégnante. Enfin, c'est vraiment dès le départ, en fait, il y a une panne de voiture qui le pousse en tout cas à refaire un parcours et à même aller plus loin que ce qu'il a envisagé d'ailleurs comme parcours. Donc comment tout ça est venu?
En fait, au début, ma première image du film, c'était plus comme quelque chose de plus conceptuel, parce que j'avais croisé François, parce qu'on était artistes associés dans le même théâtre, et je connaissais pas vraiment encore son travail, mais en tout cas, il y a quelque chose qui... Il a une sorte de flamboyance comme ça qui m'a assez fasciné. Et on s'est recroisé de manière un peu plus informelle, et j'aimais beaucoup... Je sais pas, il y a quelque chose qui... Il est vraiment... Son image m'est vraiment restée, quoi. Et j'avais envie de faire quelque chose de plus conceptuel qui était juste de le filmer, sachant que c'était un grand danseur, le plus grand danseur, de le filmer, mais sans qu'on le voit derrière la porte de toilette. Je l'imaginais danser dans les toilettes et juste de voir à l'image une porte de toilette et de l'entendre danser. Et que le spectateur puisse se projeter comme ça sur quelque chose qu'il ne voit pas. Et le film est parti de ça. Et après, j'ai congloméré autour cette histoire et tout d'un coup, j'ai mis de moi à l'intérieur de ça, de ces toilettes pour hommes. Et encore une fois, je me perds dans la question, mais...
C'était
voilà. Et en même temps, voilà, et petit à petit, en mettant de moi dans cette histoire, je me le suis pas verbalisé comme ça, mais il devenait mon prolongement, quoi. Il devenait moi qui revenait. Mais à la différence de moi, je trouve qu'il a quelque chose d'une flamboyance. En tout cas, sur son corps est inscrit plein de choses. Et j'ai l'impression de juste le choisir lui pour être ce personnage-là. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Il représente plein de choses, il a une sorte de fluidité, de genre, il est tout, quoi. Et même si au début du film, il est un peu moins flamboyant, il se remet au niveau de son retour dans son village natal, mais j'ai l'impression que jusqu'au bout de ses ongles, il a quelque chose d'une force assez, assez folle, quoi. Et il est, déjà avant même le début du film, il est prêt à... C'est une sorte de tsunami qui arrive dans les Pyrénées, mais avant même qu'il fasse quoi que ce soit.
Mais voilà, si je posais la question aussi, c'est parce que dans les films précédents, vous interprétiez vous-même un personnage qui est un personnage qui emprunte à votre vie, en même temps qui est un personnage de fiction.
Ouais.
Et là, c'est différent, c'est la différence avec Boléro.
C'est vrai que le premier film, j'avais envie, c'était aussi très évident que ça allait être moi qui allais jouer dedans, mais parce que j'avais vraiment envie de filmer des gens de ma propre vie. Et qui étaient des amis ou des gens que j'avais croisés juste une soirée. Et ce que j'aimais vraiment, c'était moi, ce lien que j'avais avec eux dans la vraie vie. Et j'étais persuadé que ce vrai lien qui existait pouvait apporter quelque chose à une fiction. Mais c'est la même chose dans Boléro, finalement, de prendre à l'inverse, pour le coup, ma famille ou comme ça. C'est que j'ai l'impression que ces vrais liens qui ont existé dans la vraie vie, en fait, permettent d'être beaucoup moins explicatifs dans la fiction ou d'être beaucoup moins lourds. étant donné qu'il y a des choses qui se passent sans avoir à les écrire, ou beaucoup de choses ne passent plus, n'ont plus à passer par les dialogues, tout est déjà là. Et ça me permet moi aussi de travailler sur épurer un petit peu les dialogues ou le scénario et travailler sur le vide plus que sur le plein.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, dans Looking for Echo, le premier court-métrage, vous aviez déjà filmé un danseur. Enfin, en tout cas, c'était très différent. Mais il y avait déjà quelque chose de très concret sur qu'est-ce que c'est qu'un corps de danseur, la façon dont il se masse les pieds, le contact entre les mains et les pieds d'ailleurs. Il y avait comme ça une séquence très 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 belle, et puis aussi tout ce qui concerne la transpiration, l'acte de danser, qu'est-ce que ça produit aussi organiquement, physiquement. Alors là, c'est différent dans la première séquence de Boléro. C'est un plan large, posé, cadré, et c'est une autre façon de filmer la danse quelque part.
Ouais.
Mais c'est parce que c'est un autre enjeu et c'est un autre film.
Ouais, tout à fait. Ouais, la danse. Mais c'est vrai que la danse, en fait, c'est assez étrange. Mais aussi, pareil, c'est pas pour reparler de moi, mais c'est vrai que je pense, j'aurais aimé être danseur. Et je l'ai pas été, ça s'est pas fait comme ça. Et j'aurais pas osé être danseur, justement, dans les Pyrénées, dans ma ville, peut-être, où je me le formulais pas comme ça. Mais c'est quelque chose que j'ai pas osé être quand j'étais là-bas. Et après, bon, la vie a fait que. Bizarrement, on m'a souvent demandé, après, comme comédien, de danser. Et souvent, c'est un truc qui est revenu tout le temps, c'est que j'ai souvent dansé dans des pièces de théâtre. Et j'ai rencontré un danseur, et je sais pas, c'était. Il y a quelque chose sur la danse aussi qui vraiment me fascine. Et ouais, comment en fait, juste de filmer un corps, qu'est-ce que ça crée de fiction, de juste, en enlevant la fiction, qu'est-ce qui est. Juste de voir un corps bouger, un corps danser, qu'est-ce que ça raconte. Je sais pas, il y a quelque chose qui me. Je pourrais rester des heures à regarder un corps qui danse, même un corps qui se prépare à danser, il y a quelque chose sur. Ouais, c'est. Je sais pas trop quoi dire de plus.
Mais
c'est...
non, mais. Maxence, vous intervenez quand vous voulez. Hein,
ouais, si non, vous mais avez... non, mais j'écoute, mais du coup, je m'imagine tes films, mais je les ai pas encore vus, alors je suis hyper curieux maintenant.
Non, mais en même temps, voilà, c'est l'idée de. Ouais. Là, pour le coup, d'avoir presque un auditeur lambda, pour le coup, quand on écoute. On se parlait de Boléro, donc ce film que vous pourrez voir, hein, je le dis aux auditeurs, si vous allez au Reflet Médicis, c'est à 14h dimanche prochain dans le cadre du Festival du film de Fès. Alors, on continue à en parler. Y a vraiment cette idée, à travers le film, aussi de raconter comment une trajectoire individuelle devient collective.
C'est, en fait, oui, comment, en fait, je pense que c'est ça, même déjà qui germait dans Looking for Echo, c'est comment, à chaque fois, je me rends compte que je ne fais que répéter ça quelque part, c'est comment... l'art en général peut nous toucher, nous transformer. Donc pareil, dans Looking for Echo, c'est finalement quelqu'un qui part pour quelque chose et qui se retrouve à rencontrer des danseurs et à lui-même être... Je finissais par devenir un danseur de manière un peu fantasmagorique à la fin du film, mais c'est comment tout d'un coup, oui, ça... que ce soit... Voilà, mais là, pour moi, c'est de la danse, mais comment en tout cas... comme moi, j'ai été transfiguré par le cinéma, finalement, quand j'étais plus jeune, mais comment, en fait, ça, qui, des fois, peut être déprécié, ou des fois... mais, en fait, comment ça peut concrètement changer. Si j'avais pas eu ça quand j'étais petit, je me demande ce que je serais devenu, peut-être, quelque part, tu vois. Donc, oui, dans Boléro, c'est ça. C'est au début, lui, c'est comment... sa seule manière de survivre dans ses toilettes et dans ce retour qui est plus compliqué qu'il n'y met dans ce village natal. On sent que ce personnage, il est un peu, voilà, il commence à asphyxier un petit peu. On se rend compte que ça a été dur, que ça allait peut-être toujours autant, genre, ça allait toujours un petit peu. Et sa seule manière, en tout cas, de faire face à ça, c'est de danser, donc de partir sur autre chose, mais de ramener l'art pour voilà, comme seul moyen de respirer. Mais ce que je voulais par rapport à mes autres films, c'est tout d'un coup comment cet acte de danser, cet acte même magique qui fait, parce que pour moi c'est un peu comme une prière en fait, païenne qui fait comme ça pour se transfigurer, mais en tout cas comment cette chose-là en fait est rattrapée par tout le monde, et parce que je voulais pas du tout faire un film qui était contre mon village ou contre ce territoire-là, ou parce que c'est vraiment pour moi un film de réconciliation, et comment tout d'un coup, voilà, au même titre que lui, il a été bougé parce qu'il danse, au même titre comment les autres, en le voyant danser, eux-mêmes, ça les rappelle à quelque chose de très, très animal, ou très... ça leur amène à eux-mêmes, genre, leur propre révélation, et comment tout d'un coup, lui disparaît pour faire émerger un groupe, et c'est plus un individu, mais comme tu disais, mais c'est vraiment un groupe qui décide de mener une révolution, quoi.
Oui, c'est ça, voilà. Il y a cette idée-là. Mais c'est marrant parce que le film emprunte beaucoup, finalement, à des codes à la fois politiques et fantastiques. tout en n'étant pas, enfin, dans le sens où ce qui compte avant tout dans cette contamination, c'est une contamination presque physique et érotique quelque part. Ouais. Mais c'est vrai que dans ce qu'on voit, il y a presque les marques d'un cinéma fantastique, quoi, dans ce qui s'est passé à un moment donné, comme s'il y avait eu une sorte de d'épuisement érotique autour de ces personnages.
Ouais, j'aimais bien l'idée, ouais, tout d'un coup, ça, il y a plus de retour possible, quoi. C'est parti ailleurs, quoi. En une seconde, c'est pas comment, c'est pas pourquoi, finalement, où on se le fait, où on se fait l'histoire, où on se la fait pas, mais en tout cas, comment, c'est, il y a pas de retour, quoi. Et que le monde d'avant n'existe plus et on va dans quelque chose, mais aussi c'est vraiment suggéré, c'est pas non plus le film est assez court, donc c'est vraiment suggéré, quoi, il y a pas
oui complètement
c'est, ouais. C'est plus, ouais,
mais c'est important de faire un film sans qu'il le soit frontalement révolutionnaire, en tout cas qui donne des,
pour moi c'est une vraie question depuis toujours, en fait, c'est comment on réussit à faire des, qu'est-ce qui est politique, en fait, est-ce que c'est de vraiment frontalement parler quelque chose de politique, ou c'est, est-ce que c'est dans la poésie, en fait, moi j'ai l'impression, pour moi, mais c'est moi ma manière de voir les choses, mais souvent c'est par la poésie qu'on peut réussir à être parce que souvent je trouve ça compliqué d'être frontalement politique, genre. Pour moi, en tout cas, j'ai pas les clés pour vraiment l'être. Et donc, j'ai l'impression que c'est par plus la fiction, par la poésie vraiment pure, qu'on peut réussir à raconter quelque chose de politique et qui, sans l'être frontalement, quoi. Mais bien sûr, c'est, pour moi, c'est politique. N'importe quel plan du, genre, beaucoup de plans du film. Genre, pour moi, tout le film est politique, finalement, à plein d'endroits différents. Que ça soit par le choix d'un comédien, d'une comédienne, par tout d'un coup une image sexuelle dans un endroit où qui voilà, où c'est plus compliqué de parler de ça. Genre, il y a plein de choses qui sont politiques, mais voilà, c'est jamais de manière frontale, ouais, c'est sûr. J'essaie de détourner, mais de sans j'essaie de pas l'imposer, mais de toujours toujours y penser, quoi, jamais lâcher ça, quoi.
Bon accent, oui.
Du coup, je me demande, parce que le truc de la réconciliation que tu disais, du coup, toi, tu le fais aussi, parce que tu rentres dans ton village, tu fais un film avec les gens que tu connais là-bas. Ouais. Avec ta famille et tout, donc en fait le trajet de... enfin, sans avoir vu le film, mais j'ai l'impression que le trajet de ton personnage, c'est celui que tu fais toi aussi en allant faire un film là-bas.
Ouais, complètement, et en plus je l'avais pas trop pensé comme ça, mais en fait c'est vrai que oui, c'est un trajet que j'ai fait moi-même, ouais, c'est sûr, un petit peu avant le tournage, et puis même en fait pendant, ça a été assez fou, c'est-à-dire que je suis arrivé avec plein d'a priori, je suis arrivé en me disant ça va être très dur de tourner là-bas, très dur de faire passer aussi le message du film, de ce que le film raconte, j'avais peur que ça soit mal pris, que j'avais peur que des choses débiles, mais aussi que François, voilà, il soit mal accueilli là-bas, que, parce qu'en plus il est entier, et lui il est vraiment, c'est assez beau de voir comment lui transige pas avec ça, donc j'avais peur que ça soit explosif, et en fait je me suis rendu compte que, en fait, tout, je partais avec plein d'a priori, qu'en fait c'était faux, tout s'est très bien passé, tout le monde était tellement heureux, et qu'en fait je trouvais beau comment un projet, tout d'un coup c'est devenu un projet collectif aussi, c'est-à-dire qu'on était déjà avec mon équipe de tournage, mais aussi avec tous les gens, il y avait 90 figurants à la fin, donc c'est, en fait le tournage est devenu le film et inversement, et mais ça qui est beau, quoi, et en fait à la fin du tournage, je me suis vraiment dit, si le film est raté, mais même jusqu'à avant de savoir que le film allait être montré, je me suis dit, si le film est raté, ce n'est pas grave, en fait, l'expérience a suffi à... L'expérience, pour moi, a suffi à, genre, tout. Et ça m'a tenu un peu sur le montage jusqu'au bout. Et même avant de savoir que le film allait partir à Cannes, je me disais, peut-être que je vais attendre encore un an avant de le montrer, mais je me disais, c'est pas grave, vraiment. Pour moi, c'est aussi d'avoir montré, par exemple, à ma mère, à ma sœur, comment c'était, et à ma famille, en fait, parce que c'était aussi flou, quoi. Ça fait 10 ans, 15 ans que je suis parti, qui voit un peu de loin quelques trucs que je...
Ouais.
Ils n'étaient pas dans le concret de ce que c'est faire un film et du travail que c'est, et que même si eux, ils ont vu ça... Genre, là, tout d'un coup, il y avait un truc vraiment de communion, mais dans tous les sens du terme, quoi. C'était un truc... ils se sont rendus compte que c'est le travail que c'était de faire un film. C'est un truc qui un plan qui semble très simple à faire. On y passait 8 heures. Voilà. Et je sais pas, à tout point de vue, ça a été quelque chose de très... assez fou, quoi.
Et tu l'as montré, du coup...
Non, on le montre la semaine prochaine.
Ah d'accord, à tous les gens qui ont participé.
À tous les gens, le 6 juillet, on montre dans le cinéma de Laurent. Ça aussi, c'est pas rien, parce que aussi beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils ont tourné, quelque part. Parce que... en fait, ils ont tourné des scènes, mais pas à l'endroit du film, tout à fait, où j'osais pas dire vraiment... Genre, ils savent ce que c'est, le film, mais pas vraiment... Genre, bon, bref, j'ai hâte qu'ils le voient et qu'on puisse en parler aussi, quoi. Mais je pense qu'ils s'attendent pas à ce film-là non plus, parce que c'est un film aussi radical. En fait, ils se rendent pas compte, je pense, à plein d'endroits, l'objet que c'est, finalement. Et puis on a tourné beaucoup de choses, j'ai beaucoup coupé, donc voilà aussi dans le concret de ce que c'est tourner dans un film, et finalement ce qu'on garde du film, quoi.
Et du coup, il y a une petite appréhension.
Ouais, quand même. Ouais, quand même. Mais comme à chaque fois, comme il y a une appréhension de le montrer à Cannes, je pensais que y a une appréhension de le montrer à chaque fois, pour des raisons différentes, mais c'est vrai, en plus là, comme c'est un film qui est très personnel, c'est très... On se demande toujours, j'ai toujours peur, quoi, que ça se... Bon, finalement, jusqu'à présent, c'est assez chouette, est-ce que ça... Même ce qu'on... les retours, et comment je peux en parler avec les gens qui l'ont vu, mais c'est toujours flippant, ouais.
On va écouter un choix musical, un choix de Nance, qui est un extrait très court, 2 minutes. Peut-être que tu veux en parler avant ou après ?
Je peux en parler. Donc c'est un extrait du spectacle de François Chéniaud qui s'appelle Romances Inciertos, un autre Orlando. Et c'est un spectacle qu'elle a créé il y a genre 6 ans, je pense, et que j'avais vu à Avignon il y a 6 ans. Et c'est la fin du spectacle où elle incarne des figures. Je pense que c'est de la littérature ou en tout cas du folklore espagnol, des figures non genrées, et dont cette figure d'une sorte de gitane, la tarara, qui est, donc là c'est un moment où elle rentre dans le public, où François rentre dans le public et elle chante auprès du spectateur cet air, et ça m'avait complètement j'avais cette chanson en tête pendant des mois après.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Vous écoutez Nuit Américaine jusqu'à midi, et donc on poursuit cette émission avec Nance Laborde-Jourda pour parler de Boléro, et avec Maxence Stamatiadis pour parler de son film Rue Philippe Ferrière. Rue Philippe Ferrière repasse demain dans le cadre du Festival Champs-Élysées Film Festival, donc ce sera je crois à 18h30, c'est ça, au Lincoln. Voilà, c'est bien ça. Mardi 27 juin. Donc le film est très différent de l'univers de Boléro dont on vient de parler. C'est un documentaire déjà. Et c'est l'idée de 5 personnes qui racontent un drame finalement que tout le monde a oublié aujourd'hui, qui est même passé totalement inaperçu, qui est celui de Philippe Ferrière, qui a été tué par...
Je ne sais pas s'il faut dire comment il a été tué.
On va pas forcément dire plus, mais en tout cas, dans le cadre en tout cas d'une... On peut quand même dire...
Je réfléchis. Si, on peut le dire, c'est dans le cadre d'une histoire de violence policière.
Voilà, et c'est là où, parce que voilà, si toute la dimension politique du film,
la dimension politique du film, cela dit, mais...
Alors après, c'est vraiment l'histoire en tout cas de d'enquêter sur un homme qui a plusieurs facettes, et ça c'est vraiment le cœur du film, et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de témoignages finalement autour de cet homme qui est complexe, on peut dire ça comme ça. Philippe Ferrière.
Ouais, non, cette histoire.
Qui était-il d'ailleurs, Philippe Ferrière? On peut partir de là.
Ouais, Philippe Ferrière, c'est le fils d'une amie de ma grand-mère. Et en fait, moi, comme je filmais souvent chez ma grand-mère, elle me racontait beaucoup entre les prises. Elle me racontait toujours ce qui arrivait à ses copines. Et il se trouve que
le film commence comme ça, d'ailleurs, avec
le film commence comme ça,
avec
ouais.
Avec donc le finalement le personnage de ta grand-mère, de ouais. votre grand-mère, qui fait des beurrettes.
Des beurrettes, ouais. Arménien, et qui me raconte cette histoire. Et c'est vrai qu'elle me racontait parce que du coup, ce Philippe, le fils de sa copine, il avait des gros problèmes de drogue et d'alcool, et il était moniteur auto-école, et donc c'était, il lui arrivait toujours des mésaventures pas possibles. Et elle me racontait ça, et je dois avouer que moi, ça me faisait rigoler parce que c'était toujours, il a pris la voiture, ils ont fait du contresens, je sais pas quoi. Et sauf qu'un jour, elle m'annonce que Philippe, en fait, il est mort. Et qu'il a été tué par la police. Donc du coup, là, je rigole moins. Et en fait, c'est vrai que d'un coup, d'un truc que j'entendais un peu de loin, comme ça, sans y prendre vraiment attention, ça a commencé à me travailler vachement plus. Et puis, j'ai commencé à essayer de regarder un petit peu ce qui s'était passé sur Internet. Et c'est vrai qu'il y avait très, très peu d'articles. Une brève rapide dans le Figaro ou je sais, le Parisien, mais il n'y avait pas grand chose, et du coup c'est ça qui a commencé à me mettre sur la piste de cette histoire. C'est-à-dire que j'ai voulu déjà comprendre comment ça se faisait que rien n'était écrit dessus, et donc j'ai demandé d'aller rencontrer Martine, qui était la copine de ma grand-mère, la mère de Philippe. Au début, bon, sans savoir exactement où ça irait, ce que j'en tirais. Et en fait, c'est la première fois que je l'ai rencontré, c'était, on a parlé longtemps, c'était très touchant parce qu'elle elle décrivait... d'emblée, il y avait quelque chose d'assez complexe parce que c'était quelqu'un qui était rongé comme ça par des addictions, qui pouvait du coup aussi être assez violent, qui s'était séparé de... pas violent physiquement, mais violent dans les mots, violent dans tout ce que ça implique, la toxicomanie. Et en même temps, il avait ce truc hyper héroïque où, 2 mois avant qu'il meure, il y avait eu, comme ça arrive souvent, un enfant qui était passé par-dessus le grillage d'un balcon et qui était suspendu dans le vide. Et lui, il était à ce moment-là en moto en bas de l'immeuble, et tout le monde était réuni en bas et voyait cet enfant qui allait tomber. Et lui, il n'a pas hésité, il a posé sa moto, il a escaladé l'immeuble et il a sauvé l'enfant. Et donc à Drancy, il a été sacré héros d'un jour, il a reçu une médaille, tout ça. Et 3 mois plus tard, il escalade une autre façade, mais cette fois ivre-mort, pour rentrer chez son ex-femme de force, comme il faisait souvent, en cognant la porte, tout ça. Et elle appelle la police cette fois-là, et ça dégénère, comme elle faisait souvent, parce qu'en fait c'était un truc qui faisait régulièrement. Et elle appelle la police, et cette fois ça dégénère. Et donc il y avait une espèce d'emblée de symétrie, de parallèle entre être capable du meilleur et être capable du pire, et tout ça. Et en fait, d'un coup, c'est devenu très riche, et j'ai eu envie de parler à d'autres gens, de parler aux gens qu'il avait connus, à ses amis, à son ex-femme. Et c'est comme ça que petit à petit le film s'est dessiné.
Alors, ce qu'il faut dire très rapidement, c'est que il y a la difficulté aussi de filmer des gens qui veulent pas être filmés. C'est le cas de Martine, et donc vous trouvez un système qui d'ailleurs rejoint un peu ce que vous avez fait dans d'autres films, ouais. Qui est de créer un avatar, ouais. Des avatars, parce que tous les autres témoins de cette affaire vont avoir leurs avatars.
Oui, c'est drôle. Je pensais tout à l'heure quand tu parlais, Nance, sur le fait que tu parlais de l'importance des corps, tout ça, alors que moi je fais des films où il n'y a pas de corps, justement, puisqu'on soustrait l'image des gens. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait cette volonté qu'ont exprimé certains qui ne se sentaient pas très à l'aise d'être filmés. Et donc, du coup, on a pensé ensemble à une manière de pouvoir les incarner à l'écran. Et moi, c'est vrai que l'avatar, c'est un langage qui m'est familier dans les films, puisque je les ai utilisés souvent avant. Et donc, on a comme ça créé des avatars ensemble qui allaient prendre le relais de la parole. Donc, au départ, il y avait cette volonté d'anonymat. Mais ce n'était pas que ça, parce que pour moi, c'est la première fois que je fais un documentaire, c'est la première fois que je raconte une histoire qui m'appartient pas, qui est vraiment à quelqu'un d'autre. En tant que réalisateur, il faut trouver aussi la bonne distance avec ça, comment on se positionne. Et c'est vrai que l'avatar, d'un coup, moi, ça me permettait de trouver une distance qui était juste pour raconter cette histoire, pour me l'approprier et en même temps pas l'écraser non plus. Et donc l'avatar, ça remplissait ce rôle-là. Et aussi parce qu'il y avait quelque chose, c'est une histoire qui est quand même terriblement mélancolique. Mmh. Et en fait, les avatars se sont faits dans le film. J'ai filmé les vrais lieux du film et dedans sont incrustés les avatars des gens qui parlent. Et donc, il y avait quand même ces espèces de... D'un coup, l'avatar, ça devenait un peu une figure fantomatique comme ça, qui peuplait les vrais lieux de l'action sur cette route nationale. Et je trouvais que ça véhiculait bien la mélancolie de l'histoire de Philippe, quoi.
Alors, c'est marrant parce que je me suis souvenu d'une phrase comme ça qui était, je crois, dans un film de Nance, Looking for Echo. Je crois qu'il y avait cette phrase, je t'ai flouté comme si tu étais devenu une œuvre d'art. Mmh, et ouais. Du coup, je me suis souvenu cette phrase aussi en rapport avec le film Maxence. Parce que quelque part, les personnages témoins de cette histoire deviennent, alors pas forcément des œuvres d'art, mais en tout cas des personnages presque de fiction, parce que aussi ils s'inventent aussi leur propre avatar. Enfin, je pense à Martine qui s'est créé un avatar différent de ce qu'elle est physiquement, et du coup ça crée la distance en fait, cette histoire d'avatar dans le film.
Oui, ça crée la distance, et en même temps ce qui était intéressant, c'est que c'est le propre de l'avatar, c'est-à-dire qu'à la fois ça permet de se cacher et à la fois ça permet de se montrer. C'est pas, on n'est pas complètement caché parce qu'on a une représentation, on a une image résiduelle. Et ce qui était intéressant déjà dans le processus, c'est-à-dire que j'arrivais, j'avais pas toute une équipe, j'avais pas de caméra, j'avais rien, j'avais juste un micro. Donc en fait, ça fait une parole qui s'est libérée très vite, où les gens oubliaient quasiment le dispositif, quoi. Donc on a pu comme ça très vite arriver dans le cœur du sujet. Et effectivement, dans les montées, c'est-à-dire qu'avec les avatars, je peux aussi reproduire, même si c'est sommairement, les animations des gens. Enfin, d'un coup, il y a quelque chose de l'émotion qu'il pouvait y avoir dans ces interviews-là, qui est retranscrite différemment, qui est transformée, mais qu'on retrouve à travers la figure de l'avatar, parce qu'elle s'anime, parce que c'est un personnage quand même. Et donc ça, c'était... pour moi, c'était primordial de pouvoir retrouver ça, pour pas faire un récit qui soit... Le film, il a une dimension politique parce qu'il traite de choses qui sont des sujets d'actualité, mais au fond, c'était pas le fond de l'affaire, c'est quand même de parler de ce type-là, de sa vie. Avant de parler de sa mort, c'est quand même de parler de sa vie. Et pour moi, c'était important que les gens qui ont été proches de lui et qui, aujourd'hui, le deuil, quoi, puissent exister avec une existence émotionnelle, quoi, que ce soit pas juste des témoignages flous. C'était une bonne... Mais c'est drôle parce que les avatars, ça reprend aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu le film, il y en a qui l'ont pas encore vu, et en fait on arrive aux gens, on leur dit bon bah voilà, moi je vais vous enregistrer avec un micro et puis après je vais faire des avatars que je vais incruster dans les décors. Mais c'est du chinois en fait pour les gens, personne se figure à quoi ça va ressembler le truc. Et donc là par exemple, il y en a qui vont le découvrir mardi, qui ont participé au film,
qui l'ont pas encore vu,
et effectivement c'est pareil, il y a la même appréhension de entre ce que j'ai expliqué et puis le résultat final. C'est sûr que c'est difficile de se le figurer, et qu'est-ce que ça va leur faire de découvrir ça, et c'est toujours une question qui est à la fois excitante et quand même un peu on se demande comment ils vont réagir, quoi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, il faut dire aussi qu'il y a notre régime d'images dans le film, qui sont des images que Philippe avait lui-même tournées, qui sont des petites vidéos où il se filmait, etc. Est-ce que ça a été facile de récupérer ce matériel-là, de l'intégrer du coup après
Oui, en fait, c'est des vidéos quotidiennes, quoi, qu'on s'envoie tous les uns les autres, des messages qu'il envoyait à sa femme, des messages qu'il envoyait à sa mère, des vidéos qu'il faisait avec ses copains. Et en fait, c'est vrai que d'un coup, tous les gens que j'ai interviewés m'ont livré toutes ces archives qu'ils avaient de lui comme ça, de manière très généreuse, très spontanée. Moi je crois qu'il y a quelque chose de beau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on meurt, il reste toutes ces images de nous, on est vraiment c'est une manière assez classique finalement de figurer les gens qui sont plus là, mais c'est vrai que là il y avait des choses tellement personnelles et en fait c'est là où ça pose une question, parce que c'est toujours délicat d'utiliser des images aussi personnelles qui ont été tournées pour une personne, pas pour que tout le monde les voit. Et en même temps, maintenant qu'il est plus là, ces images-là, elles rendent compte de qui il était. Mais je veux dire, il y a une vraie question éthique qui se pose. Et je pense que j'ai essayé de tout traiter avec avec délicatesse pour qu'il n'y ait jamais un sentiment de trahison ou des choses comme ça. Mais comme Philippe, c'était un personnage qui était qui avait ses bons côtés, qui avait ses côtés plus durs aussi. C'est quelque chose qu'on voit aussi à travers la manière dont il se filmait, à travers les messages qu'il envoyait. Et je pense que, pour moi, c'était très important de pouvoir montrer ça. Mais c'est vrai que c'est une espèce de richesse je pense qu'on n'avait pas avant, quoi, de se dire que quand on meurt, il reste autant de choses de nous, autant d'images de nous. Et je pense que c'est ce que j'avais avec le film d'avant, au jour d'aujourd'hui, où j'ai pu faire renaître mon grand-père avec du face swap. Parce qu'il reste tellement de choses, tellement d'images que... Enfin là, c'était des images que j'avais tournées pour mon grand-père, mais maintenant, en fait, il reste... on arrive bientôt au moment où il va y avoir plus de gens morts qui sont sur Facebook que de gens vivants. Enfin, il y a une espèce de... Voilà, comme ça, de je sais pas, ça change, quoi.
Mais là, c'était différent parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas, et voilà, donc il a fallu rentrer aussi dans l'univers de cette personne, en fait, qui devient presque un personnage quelque part.
C'est le seul personnage qu'on voit dans le film, c'est-à-dire la seule figure qu'on voit, c'est la sienne, et c'est vrai que moi, en fait, à passer autant de temps avec son image, au montage, tout ça, il y avait un truc où il m'était devenu presque familier à la fin, enfin, j'avais l'impression de le connaître presque, mais évidemment pas. Mais oui, enfin, je trouve que c'était vraiment une matière très riche et qui se complétait très bien avec les avatars. C'est-à-dire que les avatars, c'était le monde des vivants, mais qui n'était pas incarné par des corps. Et Philippe, en fait, c'était le seul qui était mort et qu'on pouvait voir à l'écran. Et je pense que ça lui rend d'autant plus hommage là-dedans, quoi.
Et dans le choix des témoins, il y avait vraiment la volonté d'avoir aussi presque une part d'objectivité, parce qu'il y a aussi un ancien flic qui est interviewé aussi, qui explique un peu comment ça se passe quand on interpelle des gens, l'histoire des clés d'étranglement, ce genre de choses. Et là, pour le coup, c'est un décor totalement virtuel, dans lequel apparaît, c'est pas un décor réel, dans lequel apparaît l'avatar de ce policier, de cet ex-policier.
Oui, alors le policier, c'est vraiment le dernier que j'ai... En fait, avant le policier, c'était vraiment chaque personne que j'interviewais m'envoyait vers la prochaine. Et en fait, dans cette histoire, ce qui m'a vraiment frappé au départ, c'est qu'il y a une espèce de notion de responsabilité qui est très bizarrement dirigée. C'est-à-dire que j'ai découvert l'histoire avec beaucoup de gens qui s'accusaient, notamment qui accusaient l'une des protagonistes plus que les autres. Il y avait vraiment une espèce de presque d'acharnement. Et en fait, d'un coup, pour moi, c'était important de décortiquer ça, de pouvoir donner la parole à tout le monde pour mettre les choses à plat. Et en fait, le film, il dirige pas beaucoup le regard, c'est juste qu'il met les paroles les unes à la côté des autres, et que d'un coup, en fait, on déplie l'histoire. Je pense qu'en tant que spectateur, on se fait une idée assez claire de ce qui s'est passé. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment comment les gens, faute de pouvoir désigner la police, par exemple, là, en l'occurrence, comme coupable d'un meurtre, quoi. Et en même temps, avec un besoin de comprendre ce qui s'est passé, de faire un sens, s'accusent les uns les autres, trouvent des coupables, disent c'est elle parce qu'elle a appelé la police, donc c'est elle qui a tué son mari. Enfin, il y a des espèces de trucs comme ça très violents, très durs. Et pour moi, c'était hyper important de pouvoir déjà mettre cette violence dans le film, dans ses paroles, parce qu'en fait, c'est la réalité. Et pour pouvoir la déconstruire, pour pouvoir aussi déconstruire les accusations. Donc, c'est comme ça au départ que se construisaient les gens à qui je décidais de parler, pour avoir une espèce de visions différentes de l'histoire. Et ensuite, c'est vrai qu'il m'est apparu que, comme le film est très ancré dans ce territoire-là, de la Nationale 3, et que je trouve que c'est vraiment une histoire, elle est oubliée. Enfin, je sais pas, c'est peut-être des fantasmes que j'ai, mais j'ai l'impression que cet endroit-là produit des histoires qui s'oublient, produit des choses qui passent, qui ont du mal à s'ancrer. Et je trouvais que c'était important d'avoir un point de vue inverse, qui était celui du policier, d'un policier de terrain qui a travaillé dans cet endroit-là, et qui puisse lui donner le point de vue de comment se passent ces interpellations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que tout ce qu'il peut dire, ça a des limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer à la fin de l'histoire pourquoi un homme meurt, et qu'il a beau donner des explications, on bute, quoi, au bout d'un moment. Mais cette parole-là, elle me paraissait nécessaire. Et comme ce n'était pas un personnage qui était directement lié à l'histoire, c'est plutôt un commentaire un peu plus lointain, il a fallu le placer dans un espace qui n'était pas le même que celui des autres, d'où l'espace entièrement virtuel dans lequel il parle, quoi.
Voilà, l'histoire d'une tragédie du quotidien, c'est un peu ça qu'il raconte Rue-Philippe Perrière.
Ouais, mais c'est presque une tragédie. En fait, ce qui est, en le revoyant, ça m'a frappé, c'est-à-dire que, là j'ai spoilé le film, maintenant on sait comment il est mort, mais quand on regarde le film, jusqu'à un certain point, en fait on découvre un personnage dont on peut se dire qu'il est mort en moto parce que c'est un motard fou furieux, ou qu'il est mort d'une overdose parce que des problèmes... Enfin, je veux dire, il avait mille façons de mourir, Des personnages disent même de lui de manière assez tragique, quoi, que si c'était pas ça, il serait sûrement mort d'autre chose à un moment. Et en même temps, il se trouve que c'est ça, quoi, qui est arrivé. C'est-à-dire que parmi toutes les morts qui auraient pu lui arriver, c'est comme si le destin avait frappé et avait envoyé cette mort-là qui est vraiment particulièrement dramatique, avec cette espèce de... Enfin, il y a une espèce... Oui, il y a un truc de tragédie parce que c'est presque... Je sais pas, il y a un truc presque écrit, quoi, on a l'impression, en découvrant cette histoire. Et c'est... Enfin, je sais pas, moi, ça m'a touché, quoi.
Alors, juste pour terminer, une question un peu commune... En Maxence et non, en fait finalement ce qui me frappe un peu dans vos films respectifs, c'est un peu votre amour de la fiction. Vous l'avez dit Maxence tout de suite en parlant de votre film, cette idée d'avoir plusieurs strates de fiction à l'intérieur du film. Il y a aussi chez Nance finalement toujours cette idée d'inattendu dans vos films, ce qui est, et c'est évidemment le cas dans Boléro qui commence presque comme un film presque réaliste et qui vire vers le fantastique et vers plein d'autres choses en tout cas. Donc j'avais envie de vous entendre un peu pour terminer, un peu brièvement parce que c'est la fin de cette émission, mais sur cette idée du goût de la fiction, même dans le documentaire pour Maxence en fait. Qu'est-ce qui vous attire tant dans la fiction ? C'est une question vaste en même temps.
Je prends une seconde pour réfléchir. Qu'est-ce qui m'attire dans la fiction ? Non, je sais pas, comme ça je dirais, mais c'est un peu bateau peut-être, mais c'est vraiment... Encore une fois, je reviens au début de l'émission, au fait de ne pas avoir eu de télé, d'avoir passé des heures quand j'étais jeune. J'ai passé beaucoup de temps à écrire à m'écrire des histoires, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça que je perpétue maintenant dans mon travail, c'est de me reconnecter à cet enfant que j'étais dans cette chambre et qui essayait de se raconter des histoires comme ça, et j'essaie de... Et beaucoup de choses que je vis maintenant, j'essaie de les... J'ai ce goût de les transformer pour essayer d'en faire devenir autre chose. Donc c'est ça que c'est, vraiment Boléro, c'est vraiment ça. Ça part de cette vie, de cette chose-là que j'ai pu vivre, même si c'est vraiment une fiction pour le coup. Mais de partir de quelque chose de réaliste, et hop, tout d'un coup, par la rêverie, par tout d'un coup de la décaler ailleurs, qu'elle vienne... se transfigurer et devenir autre chose, quoi. Pour moi, c'est vraiment ce goût de la métamorphose, je pense aussi.
Maxence ?
Je sais pas, même pas si j'ai un vrai goût pour la fiction. Disons que je pense que pendant longtemps, je différenciais très peu les deux. Et on me disait toujours, mais c'est de la fiction, du documentaire. Jamais, on s'en fout, tout ça. Bon, pour les commissions, on s'en fout vraiment pas. Donc, il faut trancher. Mais non, j'aime bien, j'imagine, organiser. Il y a un truc d'organiser le réel qui est rassurant, quoi. D'un coup, de lui donner un sens. Et en même temps, dans le réel, là, comme dans l'histoire de Philippe Ferrière, c'est déjà presque tellement fictionnel la manière dont s'organise cette histoire qu'on retrouve, enfin je veux dire, c'est forcément imbriqué. Après maintenant, là, après avoir fait un vrai documentaire, je me rends compte que quand même, la différence c'est qu'un documentaire, quand les gens ils nous racontent leur histoire, quand ils nous donnent leurs archives, quand ils nous racontent leur vie, il y a un truc d'un coup on se retrouve dépositaire de leur histoire, et c'est quand même une responsabilité qui n'est pas la même qu'en fiction, où on est quand même très libre, et je me rends compte que là c'est une vraie différence que je n'avais pas... anticipé avant.
On va écouter pour terminer l'émission le choix que vous avez fait, Maxence. donc je rappelle, Boléro repasse à Paris dimanche à 14h au Reflet Médicis, et pour rue Philippe Ferrière de Maxence, c'est la Mathialis, c'est demain au Champs-Élysées Film Festival à 18h au Lincoln. Et qu'est-ce qu'on écoute donc du coup, Teresa Teng?
Ouais, alors je savais pas, je me suis dit que comme mon film était assez sombre, j'avais envie de mettre une chanson légère, une chanson d'amour, puisque je fais des films d'amour aussi, et là aussi c'est quand même un film d'amour. Donc voilà, j'ai mis une chanson dont je me suis dit les gens seront contents de l'écouter à la radio.
On écoute une chanson d'amour pour terminer l'émission alors. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.想不起， écoutez Aligre FM 93.1.